journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des années qu'ils appellent à l'aide et qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Les soignants sont à bout de force dans un hôpital public qui manque de tout, de temps, d'argent, de lits, de bras. Vendredi thématique sur la rédaction d'Europe 1, on vous parle aujourd'hui de votre santé et de sa prise en charge de plus en plus complexe.
Au premier rang des difficultés, le manque de personnel.
Une véritable hémorragie. Rien qu'en 2020, plus de 12 000 infirmiers et aides-soignants ont claqué la porte de l'hôpital public. Nombre d'entre eux ont fui vers le privé ou le libéral et de plus en plus de médecins en font autant, Guillaume Dominguez.
En 35 ans de carrière en CHU, le professeur Pascal Boileau a vu peu à peu les gestionnaires remplacer les médecins à la tête des administrations hospitalières. Une politique du chiffre qu'il juge à l'origine de l'effondrement des conditions de travail.
Vous ouvrez la boutique tous les matins et au lieu d'avoir 10 employés, vous n'en avez que 7 ou 8 parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont en burn-out. Je me suis retrouvé avec des patients. On ne pouvait pas opérer pendant 6, 7, 8 jours. Un matin, vous vous regardez dans la glace et vous dites « Est-ce que je suis complice ?» Où est-ce que je quitte le navire ? Donc je suis parti.
Il quitte son CHU en 2019 pour fonder sa propre structure privée. Un choix que de plus en plus de jeunes médecins font aussi. Julien voulait être urgentiste, mais ses années d'internat ont eu raison de ses ambitions.
Ta journée, elle ne peut pas rentrer dans ta journée. Tu es tellement sous-effectif que tu prends ton poste à 20h et tu sais que tu as 50 patients qui ne sont pas vus, en plus de tous les patients qui sont là. Ça te met une pression énorme en fait. J'avais pas envie d'en subir les conséquences, donc je suis parti.
Et après 7 ans d'internat, Julien, aujourd'hui médecin libéral, estime avoir payer sa dette au service public.
Guillaume Dominguez, notez que selon un sondage de l'Ordre National des Infirmiers, 29% des infirmiers espèrent quitter la profession d'ici un an. Pas assez de soignants donc, pas non plus assez d'argent, car on ne s'en rend pas forcément compte, mais la santé coûte très cher. La Sécu, c'est la meilleure couverture sociale au monde, alors le prix des actes nous est étranger, mais ce matin, sur Europe 1, on a décidé de sortir la calculatrice. Prenez par exemple une famille avec un enfant qui a une mutuelle, comme 96% des Français. Dans sa vie, elle passera forcément par l'hôpital. À combien peut s'élever la facture ? Faisons les comptes, Yasmine Akatou.
Commençons avec un accouchement par voie basse, sans complications. Dans un hôpital public, cela ne coûtera rien à la maman. En revanche, la facture réelle s'élève à 2 862 € pour la surveillance et l'occupation d'un lit pendant 5 jours. Cet enfant grandit, apprend à faire du roller et se déchire les ligaments d'une cheville. Aux urgences, un forfait de passage s'applique, 27 €. Il faut ensuite y ajouter la radio et ou le scanner, la consultation avec un médecin et enfin la pose du plâtre. Au total, ce bobo aura coûté plus de 120 €, mais rien aux parents. Autre exemple, si le père est opéré en urgence d'une appendicite, l'hospitalisation s'élève à 2 500 €, mais toujours rien pour le patient. Plus tard, la mère doit se soigner pour un cancer du sein. Pour une chimiothérapie de 25 séances, l'hôpital facturera 10 462 €. Grâce à l'hôpital public, la famille aura reçu des soins d'une valeur de près de 16 000 € pour lesquels elle n'aura rien déboursé.
16 000 € valeur réelle de ces soins qui ne nous coûtent rien, Yasmine Akatou.
Enfin, 4 600 € de dépenses de santé en moyenne par Français chaque année, sachez-le. On en reparlera tout à l'heure à 8h40 avec nos deux invités avec qui nous parlons notamment des traitements de la santé du futur. Comment serons-nous soignés dans 10 ou 20 ans? Vous allez voir, c'est absolument passionnant. La santé qui, hier soir, a mis le feu aux poudres à l'Assemblée nationale. Écoutez.
Descendez, madame la députée, descendez, madame prenez le micro, la si la présidente est d'accord, moi je vous le laisse volontiers, vous hurlerez dans le micro. Je m'étonne du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement.
Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a abasourdi par cette ambiance houleuse dans l'hémicycle. Suspension de séance après l'invective du député guadeloupéen Olivier Servat. À un élu qui tentait de l'interrompre, il a lâché, tu vas la fermer. Au cœur des débats, le sujet brûlant de la réintégration des soignants non vaccinés. L'opposition la réclame, le gouvernement fait de la résistance.
8h05 sur Europe 1, la France, elle sera-t-elle prête pour les Jeux Olympiques 2024. Nous sommes à 616 jours de la cérémonie d'ouverture. Et c'est la question de la sécurité qui se pose âprement en ce moment.
Nous allons mobiliser plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour pour organiser les Jeux Olympiques. Ça va donc demander énormément de travail de préparation et d'exécution pour le ministère de l'Intérieur. Et c'est un défi que la France n'a jamais mis en place.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le reconnaissait lui-même au Sénat le mois dernier. Le défi est immense. 600 000 spectateurs de toute nationalité à Paris. Pas de place pour la polémique ou pour une pseudo-guerre des polices comme il a pu y en avoir par le passé. C'est une information Europe 1 que vous nous révélez, William Molinier. Le RAID, la BRI et le GIGN ont trouvé un terrain d'entente pour se répartir les missions de sécurisation de cette cérémonie d'ouverture.
Oui, le RAID va sécuriser l'eau et l'acheminement des bateaux sur la Seine. Le GIGN, lui, verrouillera le ciel et s'occupera de la protection des délégations officielles. Enfin, la BRI aura la responsabilité des opérations au sol, notamment les quais de Seine, où au moins 600 000 personnes sont attendues. Mais surtout, l'organigramme est accepté sur le principe par les trois chefs. C'est le patron de la BRI qui pilotera les opérations d'intervention en cas d'incident majeur. Cette copie a été validée par les directeurs de la police et de la gendarmerie. Manque plus que le tampon du préfet de police Laurent Nunez avant la validation finale du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Reste l'épineuse question de la sécurité privée. 20 000 agents pourraient manquer en raison des difficultés de recrutement dans le secteur. Les organisateurs des JO ont rencontré l'état-major des armées. En privé, les militaires sont dubitatifs. S'ils sont prêts à être intégrés au dispositif de sécurité pour y apporter des compétences spécifiques comme le déminage des ponts de la Seine ou la lutte anti-drone, ils voient en revanche d'un mauvais œil l'idée de pallier le déficit d'agents privés.
William Molyneux du service police-justice d'Europe 1, noté que ce matin dans le journal 20 minutes, le ministre de l'Intérieur assure que des policiers étrangers viendront aider les Français, ne serait-ce que pour renseigner, dit-il, les personnes qui prennent les transports.
Les transports où Gérald Darmanin l'annonce également ce matin, la sécurité sera renforcée à partir du mois de mars.
Oui, 1835 policiers supplémentaires seront affectés aux transports en France, c'est 200 de plus rien qu'à Paris.
Il appartient à la justice d'enquêter en toute indépendance. Voilà la réaction très sobre de l'Élysée suite à l'ouverture par le parquet national financier de deux informations judiciaires sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron.
L'une sur les conditions d'intervention des cabinets conseils dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. L'autre sur des soupçons de favoritisme les concernant dans le viseur de la justice, notamment le cabinet McKinsey, soupçonné d'entretenir des liens privilégiés avec le président de la République.
Enfin, plus fort que Noël, c'est le Black Friday aujourd'hui.
Et pour les commerçants, c'est vraiment le chiffre d'affaires de l'année. 748 millions d'euros l'an dernier en France sur Internet et dans les magasins. Mais d'où vient cette opération commerciale? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Barthélémy Philippe.
Le Black Friday ou Vendredi Noir vient des États-Unis. Lancé par des commerçants dans les années 60, cette journée de solde record tombe toujours le dernier vendredi de novembre, le lendemain de Thanksgiving. Beaucoup d'Américains postent un jour de congé et commencent leurs achats de Noël. Forcément, les magasins sont noirs de monde. C'est de là que viendrait le terme Black Friday. On dit aussi que les commerçants sortaient du déficit ce jour-là. Dans leur compte, ils remplaçaient le stylo rouge par un crayon noir. Arrivé en France en 2010, le Black Friday concernait d'abord le e-commerce, mais l'ensemble du secteur marchand l'a adopté, même les enseignes alimentaires. L'événement dure jusqu'au lundi, c'est le Cyber Monday avec toutes les offres sur Internet. Et le budget moyen des Français pour le Black Friday est de 300 à 400 euros.
Barthélémy Philippe.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, votre notice de l'info, c'est tous les matins dans votre journal de 8h. Enfin, c'est l'une des grandes questions que l'on se pose à propos de l'univers. Y a-t-il eu de la vie sur Mars?
Eh bien, on approche de la réponse. Plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques affirment que les roches récupérées par le robot Persévérance le long d'un cratère martien montrent qu'il y a bien eu de l'eau sur Mars. Et donc peut-être de la vie, Alexis Guilleux.
Oui, des molécules favorables à la vie, des composés organiques seraient contenus dans presque tous les échantillons martiens récupérés par Persévérance. Il s'agit de roches volcaniques qui montrent que de la lave a rencontré l'eau à plusieurs reprises. Cela fait maintenant un an et demi que Persévérance voyage autour de ce cratère nommé J0 à la recherche de signes de vie. Et d'après l'une des études, les roches de ce cratère ont connu trois événements distincts au cours desquels elles ont été exposées à de l'eau. Une aubaine pour les scientifiques, car plus le passé aquatique de Mars est riche, plus les chances de trouver des traces de vie organique sont élevées. Les scientifiques cherchent maintenant à savoir combien de temps l'eau est restée sur Mars. Plusieurs millions d'années sont nécessaires pour voir émerger des formes de vie complexes. Alors il faudrait être patient avant d'avoir des analyses plus poussées. La NASA et l'Agence spatiale européenne doivent envoyer un autre vaisseau sur Mars pour récupérer ces échantillons, qui sont donc attendus sur Terre au début des années 2030, après un interminable voyage-retour d'au moins 7 mois.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Passionnant cette affaire d'eau sur Mars.
Effectivement, on n'a pas fini d'entendre parler. Vivement qu'on puisse y aller. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journée.